Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Si je devais résumer mon histoire d'aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a duré plus de 30 ans, ce qui est assez rare dans le show business, puisqu'il s'agit d'un couple célèbre, Michel Delpech et sa femme Geneviève, qui est là et que j'accueille bien volontiers. Bonjour Geneviève.
Bonjour Christophe.
C'est une histoire que j'ai tirée de votre livre chez First, Te retrouver. Une histoire d'amour donc, mais pas que, car cette histoire d'amour est traversée d'un bout à l'autre du premier jour de votre rencontre avec Michel jusqu'à sa mort, jusqu'au dernier jour et même au-delà, par ce don que vous dites avoir pour la voyance. Et vous racontez, on le verra qu'aujourd'hui encore, malgré sa disparition, vous continuez de parler avec Michel. Alors par honnêteté, je me dois de vous dire que je ne suis pas croyant de tout ça, mais au fond, qui suis-je pour dire que puisque je ne crois pas, ça n'existe pas. Et donc, comme je le fais avec tous ceux dont je raconte ici des morceaux de vie, je vais raconter sans juger et on se parle après. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Comment débuter cette histoire? Tiens, pourquoi pas comme ça?
C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête.
Non, pas comme ça, comme ça. Peut-être comme ça? Oui, comme ça.
Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi.
On l'a aimé, ce gars-là. Enfin, moi, je l'ai aimé. Il est dans la bande-son de ma jeunesse. Je l'ai aimé, vous aussi peut-être l'avez-vous aimé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que celle qui a partagé sa vie pendant plus de 30 ans, Geneviève, sa femme, l'ait aimé tellement fort que ça ne s'est pas arrêté à la mort de Michel. Que ça continue différemment, mais que ça continue. Parce que vous voyez, ça n'est qu'une histoire d'amour, en vérité. Qui commence en 1983 dans un lotissement chic de Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, où habitent et Geneviève et Michel. Mais sans se connaître, hein. Geneviève, entre nous, préfère Nougaro. Chut. Mais depuis 3 ans, tous les jours, figurez-vous, Delpech, au volant de sa petite Honda, cale pile sous sa fenêtre. Mais ce qui provoque la rencontre, c'est une copine. Une copine qui veut absolument se faire Michel Delpech. Et qui la harcèle.
Oh Geneviève, débrouille-toi. Trouve le moyen de me le faire rencontrer.
Et puis un jour, la copine décroche elle-même un rendez-vous. Il l'invite à boire le café. Chez lui. La copine finalement est un peu impressionnée et elle demande à Geneviève de venir tenir la chandelle. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Parce que Michel, c'est sur Geneviève qu'il flash. Pas sur la copine. Et d'ailleurs, à un moment, la copine part aux toilettes. Il se jette sur Geneviève et il l'embrasse, direct. Elle est un peu surprise. Là-dessus, la copine revient. Moment de gêne. Et ça ne va pas plus loin, ce jour-là. Quoique, Geneviève rentre chez elle. Elle va directement se coucher, elle lit un peu, et puis elle éteint. Et là, c'est elle qui le dit, hein, moi je ne suis pas juge. Au pied de son lit, elle voit un couple qui flotte dans l'air. Lui, maquillé, androgyne, elle blonde avec une queue de cheval, très maigre. Et tous les deux, ils sont penchés sur Michel. Ils égorgent un poulet, En fond, il y a des chants polynésiens, des chants de Tahiti. Et le sang du poulet coule sur Michel. Je sais, ça paraît dingo, mais c'est ce qu'elle voit au pied de son lit. Elle finit par s'endormir, et le lendemain, elle croise le majordome de Michel Delpech. Et elle lui raconte sa vision.
C'était très troublant, vous savez. Mais je l'ai vu au pied de mon lit.
Le majordome le répète à Michel Delpech, qui du coup veut la voir. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il part demain pour Tahiti. Comme dans sa vision. Il va là-bas rejoindre un couple d'amis.
Et vous avez une photo de vos amis?
Michel lui montre une photo. C'est incroyable. C'est le couple qu'elle a vu au pied de son lit la nuit dernière. Le même homme androgyne, la même femme blonde. Michel Delpech prend peur. Il annule son voyage à Tahiti. Incroyable cette rencontre. Et c'est comme ça que ça commence. L'ésotérisme est là, entre eux, depuis le début. Alors, depuis quand Geneviève a-t-elle ses visions, ce don? Elle en prend vraiment conscience à la naissance de ses enfants, ce qu'elle a eu avant Michel. Mais elle dit que ça s'intensifie quand elle rencontre Michel. Coluche, par exemple, il le croise à l'anniversaire d'un ami. En rentrant, elle dit à Michel.
Il va se tuer, Coluche. À moto.
Idem pour Balavoine.
Lui, je te le dis, il va mourir explosé. Arrête tes mauvais présages.
Et pourtant. Est-ce que lui y croyait? Au début, un peu, comme beaucoup dans le showbiz. Mais après, il l'a dit dans des interviews. Il était stupéfait par les dons de sa femme. Il l'a vu prédire l'avenir tant de fois. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, quand Emmanuel, leur fils, est bébé, un jour, Geneviève voit une grande silhouette noire planer sur son berceau. Elle le voit mourir. Alors elle l'emmène à l'hôpital, où on la prend pour une folle, mais où on accepte de garder le bébé en observation. Eh bien, à 4 heures du matin, le ventre du bébé se met à gonfler. On n'a jamais su ce que c'était, mais c'était sérieux, puisqu'Emmanuel reste un mois sous assistance cardiaque et respiratoire. Ça l'a convaincu, Michel. Ça, et le reste, il disait que c'était la meilleure voyante du monde. Alors question, évidemment, est-ce que Geneviève a vu venir sa maladie, le cancer qui l'a emporté? La réponse est oui. Et leur fils Emmanuel, qui a hérité du don de sa mère, aussi. Le fils est musicien, il raconte qu'un jour, il est en concert avec son père. Il rentre, il dit à sa mère.
Écoute maman, quand je joue derrière papa, je sens un drame. Il se passe quelque chose sur lui.
Et elle-même, Geneviève, un an avant l'annonce du cancer, dit à Michel.
Tu devrais faire des examens, Michel. Il se passe quelque chose dans ta bouche.
Et lui, qui croyait dur comme fer pourtant au don de sa femme et de son fils, ne les a pas écoutés. Et le cancer de Michel pointe le bout de son nez pile un an plus tard, début février 2013. Il rentre d'un concert.
Dis donc, regarde là, ouais là, j'ai un drôle de truc dans le cou.
Un drôle de truc? Un ganglion de la taille d'une demi-pomme. Il file tout droit chez l'otorino, qui pose ses doigts sur son cou, puis sur sa langue. Et Franco?
Vous avez un cancer de la langue, monsieur. Honnêtement, je ne pense pas que vous rechanterez.
Bam! Un grand diplomate, ce médecin. Et donc il rentre et il le dit à Geneviève, qui éclate en sanglots. Et puis un peu plus tard, elle va voir sa femme de ménage.
C'est très grave. Michel n'en a plus que pour 3 ans. Mais non, madame, ne dites pas ça. On va le soigner. Non, Vous verrez.
Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Les premiers rendez-vous chez les spécialistes, le diagnostic, un cancer de stade 4, le dernier stade, et cette phrase terrible que prononce le professeur qui pose le diagnostic.
C'est trop bête, hein ? Vous seriez venu me voir un an plus tôt. C'était anodin. Je vous enlevais un petit bouton. C'était rien du tout, quoi.
Pour Geneviève, c'est redoutable, parce qu'il y a un an, elle a senti qu'il avait un problème dans la bouche. Ça n'a servi à rien. Sa voyance n'a pas changé le cours de l'histoire. Alors, commencent les traitements. La tumeur n'est pas opérable et donc c'est chimio tous les jours. Michel est épuisé, mais il n'a pas vraiment pris conscience de la gravité de son état. Ou disons qu'il ne veut pas l'affronter. Alors que Geneviève, elle a clairement vu que dans 3 ans, il va mourir. Elle l'a vu et jusque-là, elle dit qu'elle ne s'est jamais trompée. Tout ce qu'elle a vu, c'est vérifié. Alors elle espère qu'elle se trompe pour la première fois. La suite est un long cauchemar, les IRM, les scanners, les chimios, les rayons. Lui qui refuse toujours d'y croire, qui va à la chimio comme s'il allait chez le dentiste pour une carie. La douleur, la fatigue, ce moment où il ne peut plus manger, où il ne sent plus rien dans sa bouche à cause de la curithérapie. Les dents qui se déchaussent, le combat contre le cancer, rude. Et puis, début 2014,
voilà. Vous êtes en rémission. Il n'y a plus rien.
Michel a compris qu'il ne rechantera pas. Ce qui l'agace, c'est qu'il ne parle plus comme avant.
Mais enfin, Michel, enfin, tu viens d'avoir un cancer grave, avec un traitement très lourd. C'est normal que tu sois pas en forme. Va te falloir du temps.
Ouais, mais ça se termine par une dépression, une énorme dépression. 3 mois dans une clinique psychiatrique. Et puis, en octobre 2014, la rechute.
Je sens que j'ai comme une boule, là, qui est revenue.
La langue, à nouveau. Et la gorge. Et là, rechute parallèle à la dépression, retour en clinique psychiatrique. Nouveau traitement, nouvelle douleur. Geneviève dit au professeur.
Mais il faut que ça s'arrête, enfin. À quoi bon s'acharner? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il ne guérisse pas?
Mais elle sait qu'il ne guérira pas. Mais Michel lui-même ne prend vraiment conscience des choses qu'en octobre 2015, c'est-à-dire 3 mois avant la fin, quand les médecins viennent lui dire
« Monsieur Delpech, nous allons vous hospitaliser dans une unité de soins palliatifs. »
« Ah, les soins palliatifs ?»
Ça veut dire que je vais mourir, alors?
Oui.
Vous allez mourir de cette maladie. Mais on ne sait pas quand. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 1 mois. On ne sait pas.
Geneviève écrit. J'ai vu Michel devenir blême. J'ai lu la peur dans ses yeux. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit. Tu vas me manquer tellement. Tu vas tellement me manquer. Michel va faire 2 séjours en soins palliatifs, entrecoupé d'un séjour en maison de repos. Michel Delpech s'éteint le 2 janvier 2016 au 3e étage de l'hôpital de Puteaux. Juste avant, Geneviève a le temps de lui dire
« Tu as tout donné à la vie. Tu as apporté du bonheur aux gens par tes chansons. Tu n'as jamais démissionné de ta famille. Tu m'as rendue heureuse. Alors lâche prise maintenant. Tout va bien se passer. Ne te soucie pas de ceux qui vont rester. Tu as fait ce qu'il fallait. »
Michel Drucker passe le voir une dernière fois, 2 heures avant son dernier souffle. Les enfants sont là et Geneviève est dans l'encadrement de la porte de la chambre. Et elle repense à cette voyance qu'elle a eue il y a plus de 30 ans. Elle lui avait dit à l'époque.
Michel, tu mourras entouré de jeunes personnes. Et moi, je me tiendrai dans l'encadrement de la porte.
Michel s'éteint à 21h30. Geneviève et les enfants rentrent à la maison vers 3h du matin et elle raconte la scène suivante. Emmanuel, leur fils, reçoit un SMS sur son portable et c'est le numéro de son père qui lui envoie le SMS. Il est écrit « Mon fils, je vais partir, mais tout va bien. Or, Michel est mort depuis plus de 5h. » Les obsèques ont lieu à l'église Saint-Sulpice, à Paris. Il fait froid et lorsqu'on sort le cercueil du corbillard, un rayon de soleil inouï sort des nuages, qui tombe droit sur le cercueil. Assez vite, Geneviève quitte l'appartement où elle a soigné Michel pendant un mois. Et elle va s'installer dans une maison de Villennes-sur-Seine, là où tout a commencé entre eux, il y a 30 ans. Et elle raconte que les premiers signes arrivent assez vite. Dans les jours qui suivent la mort de Michel, elle se couche, elle lit un peu, elle boit une tasse de thé, elle pose la tasse sur sa table de nuit, elle éteint. Et là, elle dit qu'elle entend la cuillère dans la tasse qui claque, un bruit violent. Elle rallume, elle ne comprend pas, elle essaye de reproduire le bruit, il faudrait qu'elle lance la cuillère sur la tasse pour obtenir le même bruit. Elle dit... Michel, c'est toi ? Et là, elle entend 3 coups contre la porte du dressing. 4 ou 5 jours après la mort de Michel, elle se promène dans le parc de sa résidence, avec sa chienne. Elle n'a pas encore déménagé. Et là, elle voit la porte du parc de la résidence s'ouvrir, toute seule. Personne ne rentre, personne ne sort. Et cette porte, il faut un code ou un passe pour l'ouvrir. Elle se referme, elle s'ouvre à nouveau, toute seule. Une autre fois, elle est dans son canapé face à la cheminée. Elle n'arrive pas à dormir. Il est 1h du matin. On sonne à la porte. Elle se lève, elle regarde par le judas. Qui est là ? Elle ouvre. Elle sent comme un glissement derrière la porte. Personne. Et une demi-heure plus tard, ça recommence, plus fort. Et une troisième fois, vers 3h du matin, encore plus fort, comme si la sonnette se bloquait. Qui est là ? Qui est là ? Toujours personne. Alors elle appelle la police, qui constate que le bouton de la sonnette est coincé, qu'il est enfoncé. Ils repartent. Geneviève va alors se préparer un thé. Et là, elle entend un grand claquement dans le salon. Elle dit que c'est comme un vase qui explose sous l'effet du gel. Il m'envoie des signes. Il m'envoie des signes. Le même soir, Marie-France, une de ses amies médiums, dit qu'elle a vu Michel au pied de son lit et qu'il lui a transmis un message pour elle.
« Il m'a dit, ma petite femme, tu ne me rejoindras pas tout de suite. Tu as encore du temps sur terre. Tu dois t'occuper des autres. Ton tour est venu d'être dans la lumière. Voilà ce qu'il m'a dit. »
Cette médium, Marie-France, habite Nice. Geneviève la connaît par un ami commun, l'écrivain Didier Van Coverlert. Un jour, elle appelle Didier.
« Didier, c'est Marie-France. J'ai un message de Michel pour sa femme. »
Didier prévient Geneviève, qui appelle tout de suite Marie-France.
« Michel me dit de vous dire qu'il faut que vous alliez un soir de pleine lune regarder l'étang et que là il vous fera signe, dans le reflet de la lune sur l'eau. »
Cette femme ne sait pas où elle habite. Elle ne sait pas qu'elle habite près d'un étang. Alors à la pleine lune suivante, elle y va. Et sur l'eau, elle voit des oies sauvages.
Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.
Et puis au bout de 3 mois, les cygnes s'estompent, mais ils vont revenir. Et une fois de plus, c'est son amie médiumanice, Marie-France, qui lui fournit la clé.
Il m'a dit, je vois le chagrin de ma femme, elle peut pas me voir parce qu'elle est trop dans la peine. Voilà ce qu'il m'a dit.
Au mois de juillet, 7 mois après la mort de Michel, Geneviève est chez des amis, en Ariège. Lui est médecin et il pratique l'hypnose. Elle lui demande de l'hypnotiser.
Vous allez lentement vous détendre? Et lentement, lentement, vous lâchez prise.
Elle dit qu'à ce moment-là, elle a l'impression de sortir de son corps par le haut de sa tête. Et là, elle le voit. D'abord une silhouette lumineuse, puis lui, quand il a la quarantaine. Elle écrit « Je me suis fondu avec lui dans une boule de feu qui ne brûlait pas, mais qui était intensément lumineuse et chargée d'amour. J'étais bercé dans les bras de quelqu'un qui avait un amour inouï pour moi. » Elle dit que quand elle réintègre son corps, elles font en sanglots. Une autre fois, elle est à Deauville, elle s'aperçoit qu'elle a reçu un appel de Didier Van Kovelaert. Elle rappelle, il ne répond pas. Elle raccroche sans laisser de message. Didier la rappelle.
Allô Geneviève? C'est Didier. C'est quoi ce message que tu m'as laissé?
Mais je t'ai pas laissé de message.
Ah si, si. Une voix d'homme. On dirait vraiment Michel d'ailleurs.
Didier lui fait alors écouter ce message. C'est la voix de Michel. Il y est question d'un rendez-vous en matinée ou en soirée. Quelques jours plus tard, elle est dans son canapé avec son chat sur le ventre. Et elle entend un bruit dans l'escalier. Et d'ailleurs, le chat se redresse, les oreilles pointées, les yeux grands ouverts. Elle sait que c'était lui. Et un jour, ils se parlent. Elle lui demande
« À quoi ressemble le monde dans lequel tu vis à présent ?»«
Il m'est impossible de te le décrire. Disons que je suis dans le royaume de l'amour. Mais il n'y a pas de description possible. Pour comprendre, il faudrait que tu abandonnes toutes tes références terrestres. »
Je me sens seul, terriblement seul, comme dans une fête foraine qui ferme, quand on démonte les manèges. Alors je te rejoins, Michel, par pensée, par action et avec ton esprit. Je te rejoins et je me sens comme dans une ambassade, recueilli, écouté, considéré, protégé. C'était toi mon harmonie, et j'en retiens la flamme de mon mieux, tant bien que mal, en attendant le moment où te retrouver.
Je suis à toi, accueille-moi, mon Père.
Cette très belle chanson de Michel Delpech, écrite d'ailleurs au tout début de sa maladie, c'est ça?
Non, cette chanson a été écrite avant même qu'il ne sache jamais, en prévision d'une comédie musicale. Il devait jouer le rôle d'Abraham.
Donc ça n'est pas autobiographique en vérité?
Pas vraiment, mais c'est une drôle de synchronicité.
Il y a une chose qu'il faut qu'on règle tout de suite, Geneviève. Évidemment que des gens nous écoutent et se disent « elle est cinglée ». Je suppose que vous vivez avec ça depuis que vous avez décidé de raconter toute cette histoire. Comment est-ce que vous gérez ça, en général, l'idée qu'on vous prenne pour une zinzin?
Alors, écoutez, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de problème. D'abord, j'assume complètement, je vis ça depuis l'enfance, depuis que je suis toute petite, et je n'ai jamais rencontré de personnes qui ont douté de ce que j'ai dit, ou en tous les cas, qui se sont moqués de moi. Vous doutez, je le sais. Mais comment d'ailleurs, je vais vous poser une question, arrivez-vous encore à douter, à ne pas croire une autre dimension, quand vous racontez aussi bien, on dirait que vous avez vu tout ça, c'est
parce
incroyable.
Parce que je n'en ai pas vu de témoignage de mes yeux.
Ouais.
Je n'ai entendu que des gens le raconter, ouais. Mais moi, rien ne s'est jamais manifesté.
Oui, mais quand même, là, vous voyez, ne serait-ce que l'hospitalisation de mon fils, le témoignage des médecins, enfin quand même, c'est... Non, rien ne vous a fait...
Non, il y a des choses qui me disent, oh, en vérité, j'aimerais bien que ce soit vrai.
Oui, bah, d'accord.
Comme tous les autres. J'aimerais bien que ce soit vrai. Mais je n'en ai pas la preuve.
D'accord.
Je suis
mais
ce n'est
pas
Thomas.
Parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas. Dites-vous ça.
On a vraiment l'impression que la voyance fait partie intégralement de cette histoire d'amour. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il vous a en partie aimé parce que vous étiez voyante ?
Alors, d'abord, la voyance fait partie de ma vie depuis toujours et de celle de ma famille. Et je ne peux pas répondre à cette question. C'est comme si vous me demandiez est-ce que si Michel n'avait pas été chanteur et célèbre, vous l'auriez aimé de la même façon.
Ah, mais ça, j'ai la réponse parce que dans le livre, vous dites que vous n'êtes pas midinette.
Non, je ne suis pas midinette, mais je le suis forcément. Ça m'a séduite aussi, son côté célèbre.
Oui,
voilà, c'est tout un ensemble. Mais je ne peux pas répondre à cette question.
Parce qu'il vous saute dessus sans savoir. Hein, le premier baiser, là, il ne sait pas que vous êtes voyante.
Non,
dès le lendemain, il est au courant et il vous croit dès le lendemain.
Mais il ne peut pas ne pas me croire, parce que j'ai donné des détails sur le physique des personnages, que j'ai vus en scène, donc le lieu où ils devaient se rendre, je ne savais absolument rien et personne ne le savait. Je ne pouvais pas inventer ça, c'est quand même troublant. Donc il arrive un moment où ça dépasse tellement le rationnel qu'il faut se rendre à l'évidence. Il faut être humble, on ne comprend pas tout encore, Christophe, on ne sait pas tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Est-ce que vous pourriez vivre avec quelqu'un qui n'y croit pas ?
Oh oui, complètement, bien sûr. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, parce que ma voyance est tellement forte, et je le dis vraiment sans aucune prétention, que tout le monde finit par y croire.
Non, mais vous avez des amis qui n'y croient pas ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vrai, maintenant que vous me posez la question, à part vous, on va peut-être devenir très amis, et
bah,
vous allez finir par y croire, vous verrez.
Si vous m'annoncez que demain, On de la Traconte fait 20% d'audience de plus, je
vous
crois tout de suite.
Vous ne vous souvenez pas, je vous avais vu il y a une vingtaine d'années, et je vous avais dit, vous avez un bel avenir dans l'audiovisuel, mais vous ne vous souvenez pas.
Non.
Vous aviez interviewé Michel.
Alors Geneviève, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en racontant cette histoire, c'est que de la vision que vous avez au pied du lit avant même, ou au soir où vous avez rencontré Michel pour la première fois, jusqu'à la vision de la mort de Coluche ou celle de Balavoine, la voyance, votre voyance, n'a l'air que de prévoir le malheur. Et je me suis demandé pourquoi.
Je vois les naissances, je me trompe rarement. Et oui, bah, écoutez, pourquoi le malheur ? Je vois la mort des gens, c'est vrai, mais... Quand on croit à une vie après la mort, ce n'est qu'un passage. Alors, ça doit être un moment déterminé, ça doit être un moment contre lequel on ne peut absolument rien. Et ce sont des événements très forts de la vie que je vois. C'est vrai que j'ai tendance à voir les gros événements de la vie. Les petits détails, je ne les vois pas, c'est vrai.
Vous dites, vous voyez les naissances.
Oui.
Vous voyez les mariages, vous voyez les victoires de l'équipe de France de football.
Non,
vous voyez...
non, très honnêtement,
rien
non.
Rien de joyeux.
Si, après l'émission, je vous raconterai plein de choses joyeuses.
Donnez-moi quelques exemples de choses joyeuses que vous voyez.
Je vois les naissances.
Ouais.
Bien un an avant, à peu près, je sais, le bébé est là, il flotte au-dessus d'une personne et je sais qu'il va y avoir un bébé. Je vois les événements importants de la vie des gens. Je ne pourrais pas gagner de l'argent avec eux. Je ne pourrais pas recevoir des clients. Je ne vois pas les détails de la vie. Je vois des gros événements. Ceux peut-être contre lesquels on ne peut rien, qui sont là.
Et si j'ai bien compris, vous voyez, mais pas parce qu'on vous demande de
jamais.
Voir.
Jamais.
Vous voyez vous-même, et puis vous dites ou vous ne dites pas.
Voilà. Je ne peux pas répondre, c'est ce que je vous disais précédemment, je ne pourrais pas en faire un métier. Et je vois, si on pose des questions, il est très rare que je vois. Mais quand je rencontre quelqu'un, très souvent, je peux voir la fin de sa vie, je peux voir les très gros événements de sa vie, les risques d'accident. C'est vrai, on peut parler de malheur, mais c'est les événements importants de la vie
qui
que je vois.
Qui menacent la vie.
Qui menacent la vie, oui, on peut dire ça comme ça.
Et alors,
la mort n'est pas une menace.
Vous le dites toujours aux gens, par exemple, Coluche, vous lui avez dit ?
Ah oui, on était à l'anniversaire d'un ami, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et quand je l'ai vu arriver, j'ai dit à Michel, oh mon Dieu, il va changer sa moto pour une autre et il va se tuer. Et ce sera à la tête, il aura quelque chose à la tête. Et Michel est allé lui dire, et Coluche est venu me voir.
Il y croyait, Coluche ?
Je peux pas vous dire, il m'a prise dans ses bras, il m'a dit, alors ma chérie, il paraît que tu me vois me casser la gueule. Et je lui dis, bah, tu ferais mieux de pas trop en rire, parce que ça risque de t'arriver. Mais bon.
Balavoine, vous lui avez dit ?
Oui, non, je l'ai dit à Michel
exploser.
Qui a appelé. Ah oui, et je voyais deux orphelins. Or, à l'époque, il n'avait qu'un enfant. C'est pour ça que Michel a eu quelques doutes. Mais en fait, quand il est mort, on a appris que sa femme attendait un enfant. Il y a bien eu deux orphelins.
Est-ce que Michel faisait un usage de votre don de voyance? C'est-à-dire, est-ce qu'il en profitait pour anticiper, je sais pas, le succès d'un disque ou le succès d'une tournée?
Je voyais pas ça.
Vous voyez
je
pas
ne
ça.
Voyais pas ça.
Et vous posez des questions quand même?
Oui, tout le temps.
Lui pouvait, plus que les autres.
Bien sûr, tout le monde, c'est tentant. Mais je ne peux que décevoir les personnes. Dans ces cas-là, je ne vois pas ces petites choses-là.
Parce que c'est commode de vous avoir à domicile. On se dit que d'une certaine manière, on a eu une assurance vie.
C'est pas toujours commode quand on voit certains détails. Mais bon, je vous répète que je vois surtout les événements graves, importants.
Je voudrais qu'on parle de ce moment extrêmement fort où donc vous voyez en voyance que Michel va avoir un problème à la bouche, que ça va venir dans un an. Donc vous datez l'événement, vous le lui dites, il croit totalement en vos pouvoirs de voyance, mais il ne vous entend pas. Votre fils lui-même le lui dit, il a hérité de vos dons de voyance, il ne vous écoute ni l'un ni l'autre, et vous n'arrivez pas à changer le cours de l'histoire. Ça me rappelle un peu ces films où des gens remontent dans le temps et essayent de changer le cours de l'histoire.
C'est le problème du déterminisme, la grande question de la vie, de avons-nous un libre arbitre ou pas? Alors là, ce sont des questions tellement importantes.
Ou est-ce que c'est mektoub?
Et ça l'est aussi.
Est-ce que c'est écrit?
Je le pense. Je pense qu'en tous les cas, dans cette vie-là, avec notre notion d'espace-temps, c'est très compliqué ce que je ressens.
Mais pour votre fils,
vous
arrivez à changer le cours de l'histoire, parce que vous semblez assez certaine que votre bébé, si vous ne l'aviez pas amené à l'hôpital ce soir-là, serait peut-être mort.
Oui. Alors, est-ce que le destin de mon fils n'était-il pas d'être sauvé aussi ce jour-là, est comme une preuve, comme un témoignage? Je n'ai pas de réponse à ça, encore une fois. Je suis désolée, je ne fais que vous décevoir, mais c'est vrai que Michel, pendant un an, presque tous les jours, je lui répétais, Michel, va voir un médecin, il se passe quelque chose dans ta bouche, alors qu'il n'avait aucun signe, et il ne m'a pas écouté. Et il se passait bien quelque chose dans sa bouche.
Mais comment est-ce que d'ailleurs vous analysez ce refus de vous croire?
Peut-être par la peur de la réponse, de aller savoir, c'était une période où ça marchait très fort pour lui, il tournait des films, ses disques marchaient, donc tout d'un coup je lui annonce ça et c'est comme un rejet, un refus de ce destin terrible que je lui annonçais. Il n'a pas voulu entendre. Mais si vous saviez le nombre de fois où il m'a dit à l'hôpital, avant de mourir, si je t'avais écouté. Il témoigne de ça dans mon premier livre, vous savez. Il témoigne directement de tout ça, Michel, dans un livre précédent.
Les trois années que dure la maladie, donc maladie, rémission, rechute, y a un moment très touchant, c'est que donc vous ressentez dès le début que ça va durer 3 ans et que la fin est absolument inéluctable. Vous ne le lui dites pas tout de suite. Vous mettez combien de temps?
Je lui ai dit quand il partait aux soins palliatifs. Pendant
donc vraiment à la fin?
À la fin, oui.
3 mois qu'il ne décède.
Oui, parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse le transférer aux soins palliatifs. Il ne comprenait pas pourquoi. Or, il ne tenait plus debout. Enfin bon, c'était assez épouvantable. Et le médecin lui a annoncé, et j'ai confirmé les dires du médecin, bien sûr.
Mais lui, je suppose qu'il pensait que vous saviez, puisque c'est votre don.
Il me l'a demandé. Il m'a demandé plusieurs fois, est-ce que je vais mourir? Oui, c'est vrai.
Et vous lui répondez?
Non, que non, qu'il fallait qu'il se batte.
C'est-à-dire là, la voyante s'efface derrière la femme, qui veut lui donner...
Et puis je peux me tromper, il y a toujours le doute, je détiens aucune vérité, après tout, je ne sais pas ce que je voyais, mais moi je voulais qu'il vive aussi, je pouvais me tromper, aller savoir. Donc je voulais qu'il se batte.
Mais c'est vrai que vous ne vous êtes jamais trompé?
Je vous assure que je ne me suis jamais trompée. Quand j'ai eu des flashs vraiment forts, ils se sont toujours révélés vrais.
Et donc c'est toujours le cas à ce jour, puisque oui, vous ne vous êtes pas trompé non plus sur Michel.
Non, mais
vous l'y avez souhaité.
Mais je n'en tire aucun orgueil, ce n'est pas un talent, c'est un don, et c'est familial. Vraiment, j'en tire aucun orgueil, non, quand j'ai un flash sur quelque chose ou quelqu'un, et Dieu sait s'il y a des témoins qui pourraient vous confirmer ça aujourd'hui, je ne me trompe pas.
Quand vous dites c'est familial, c'est que vous l'avez hérité et transmis, donc vous l'avez transmis à votre fils Emmanuel.
Absolument, oui, ma sœur a le don, ma grand-mère l'avait, et mon fils Emmanuel a un don très très puissant.
Plus développé que vous ?
Je ne sais pas encore, il est jeune et il ne veut pas trop en parler, mais c'est costaud.
Ouais. Lui aussi ne voit que des malheurs ?
Pas du tout, pas que des malheurs, mais enfin, il a évité un bel accident comme ça. Enfin, éviter, toujours encore
toujours
le libre arbitre. Oui, je n'ai pas vraiment de réponse, je ne suis pas un philosophe et je ne suis pas une religieuse, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse.
On arrive au bout, Geneviève. Puisque vous avez... continuer d'entretenir un lien avec Michel. Est-ce qu'il vous tarde de le retrouver du coup ?
Il me tarde de le retrouver pour vous dire la vérité, mais il ne me tarde pas de mourir. J'attends sereinement ce moment. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais très exactement ce qui se passe après. Ça risque de vous surprendre. Je sais que je le retrouverai. J'ai hâte de le revoir. Il me manque énormément, mais je ne suis pas pressée de mourir.
Vous le croyez quand il vous dit que c'est un royaume d'amour ?
Oh mais complètement, j'ai fait l'expérience qu'on appelle l'expérience du tout que le Bouddha ou Krishnamurti décrivent dans leur enseignement. Et j'ai fait cette expérience dans mon jardin du Luberon, et où je ne faisais qu'un avec tous les végétaux, les minéraux, les animaux, tout. Et je peux vous dire que c'est un royaume d'amour, d'empathie, de compassion qui dépasse l'entendement. Et... il y aurait long à dire là-dessus, et donc je sais ce qui m'attend, j'ai pas peur.
Est-ce que le fait d'avoir maintenu ce lien avec Michel après la mort vous aide à vivre ?
J'ai gardé des liens avec pas mal de défunts. Mon père qui est venu me voir, plusieurs personnes, et peut-être, je me suis jamais posé la question, sûrement. Ce qui m'aide à vivre, c'est de savoir que rien ne s'arrête à la mort. Donc oui, d'une certaine manière, ça m'aide à vivre.
Il vous dit à un moment, à toi Geneviève, d'être dans la lumière.
Ça, il me l'a dit, oui. Sur son lit de mort, il me l'a dit quelques heures avant de mourir.
C'est pour ça que vous avez écrit tous ces livres sur votre histoire.
Et non.
Pour être dans la lumière.
C'est le père Brune qui est décédé hier à midi, que j'adorais, qui est un prêtre qui a été un précurseur de contacts avec l'au-delà, des TCI et de tas de choses, qui a écrit une centaine de livres et qui m'a imposé le fait d'écrire ça, qui m'a ordonné, il m'a dit il faut écrire, il faut témoigner, ça va aider les gens dans le deuil, les gens qui souffrent. Parce qu'en ce qui me concerne, il n'était pas question jamais de parler de ce don. Et j'ai obéi à ce père. Et quand Michel m'a donné son accord, lui aussi, quand je lui ai dit le père Brune veut que j'écrive mes histoires, il m'a dit à toi d'être dans la lumière. Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais ce n'est pas du tout une de mes ambitions, croyez-moi.
Merci beaucoup Geneviève,
merci,
je suis très content
Christophe.
D'avoir raconté cette très belle histoire.
Vous l'avez très bien raconté, j'étais très émue.
Quoi qu'il arrive. Merci infiniment, très bon après-midi à vous qui nous écoutez. Rendez-vous demain à 2h de l'après-midi.
Retrouvez Christophe Ondelatte, 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.